après-midi, les 17h.
Le club.
Et l'heure de retrouver le club avec Margot Roguin. Bonsoir.
Bonsoir. Et dans ce club, on va parler des jeunes verts. Ils dénoncent l'importation de vins étrangers alors qu'une partie des vendanges 2019 risque de finir à la poubelle. La journée des proches aidants, c'est aujourd'hui. On parlera de cette thématique aux alentours de 17h10. On parlera aussi d'une autre tranche de la population, les chômeurs longue durée. Les règles, eh bien, elles arrivent à une personne sur deux, finalement, en Suisse, mais aussi partout dans le monde. Pourtant, c'est une thématique encore taboue, on va encore essayer de changer la donne. Finalement, on s'intéressera un peu à la culture avec le théâtre du Croution. Nous accueillerons Olivier Dupéret, metteur en scène.
Le club, c'est dans quelques instants. Merci Margot.
La météo avec le Garden Sound Broniman à Neuville, sortie autoroute Villeneuve.
Pour demain, si vous habitez au-dessus de 800 mètres le matin, vous pourrez même peut-être sortir les lunettes de soleil. Pour le reste, on restera sous une couverture nuageuse. Et augmentation de la nébulosité à partir du sud-ouest en cours de matinée. Et arrivée de quelques pluies autour de la mi-journée. Hein, 2 cm de neige même à 2200 mètres côté température. Il fera 14 au meilleur de la journée en pleine et 10 à 1000 mètres, 6 à 2000. La météo complète, c'est sur radiochablais.ch.
Le club en podcast sur radiochablais.ch.
Les jeunes verts vaudois sont inquiets pour les vigneronnes et vignerons suisses. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, les JVV dénoncent la situation de nombreuses productrices et producteurs à l'issue des vendanges. Nombre d'entre eux risquent en effet de devoir jeter une partie de la récolte alors que l'importation de vins étrangers se poursuit. La faute aux quotas imposés par les cantons. Pour en parler, Frédéric Borloo est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Syndic d'Aigle, vous intervenez ici en tant que président de la Fédération Suisse des Vignerons, précisons. Alors, la jeunesse verte s'élève contre le gaspillage de raisins. À votre connaissance, quelle quantité de la vendange 2019 est touchée ?
Bon, alors d'abord, il faut préciser que la situation est très inégale en Suisse. Hein. Il y a des régions qui écoulent très bien leur stock, d'autres plus difficilement. Nous sommes dans une région directement le Chablais qui est peut-être un peu moins touchée que d'autres. Donc ça, il faut disons, le préciser. Du côté du bout du lac, c'est un peu plus difficile. Et puis, voilà, enfin, on a des situations très inégales. Alors dire quelle quantité, c'est impossible. On a en gros, dernier recensement de l'Office fédéral de l'agriculture, 23 mois de stock. On avait au même moment en Suisse, l'année passée, 21 mois de stock. Donc, c'est pas énormément plus, hein, c'est quand même trop. On sait qu'on doit, si je puis dire, commercer entre 15 mois et 20 mois, c'est un peu l'idéal. Donc, on a dépassé cela, c'est sûr. Il n'y a pas une augmentation qui est non plus gigantesque. Mais il faut essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on en est là.
Justement, rappelons-le, hein, la raison de ces quotas, ils visent à garantir un niveau de prix convenable, c'est ça ?
Oui, alors attendez, d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a des difficultés dans le marché actuel et les quotas ne sont pas responsables de ces difficultés-là. On est aujourd'hui dans une situation où il y a eu années où les quotas de production, et non pas les quotas d'importation, les quotas de production n'étaient pas atteints, 3 années consécutives. Et puis tout à coup, 2018 était une année en termes de récolte normale, mais dans toute l'Europe, 2018 a été une année, je dirais, surabondante. Donc aujourd'hui, la Suisse fournit 37% de la consommation suisse, le reste c'est de l'importation. On ne peut pas fournir 100% de la consommation suisse. Donc forcément, dans un marché où, en guillemets, le marché local indigène est minoritaire, la pression qu'exercent les commerçants et les producteurs étrangers est gigantesque. Donc forcément, c'est très difficile cette année. Vraisemblablement, les vendanges qui viennent de se dérouler devraient un peu corriger ça parce qu'on est un peu en dessous des quotas fixés un peu partout en Suisse. C'est plutôt positif, sauf au Tessin. Mais voilà, ça devrait donc contribuer à réguler un petit peu ça. Maintenant, quand on parle de quotas, je parle bien de quotas, moins de production, encore une fois, et pas d'importation.
Les jeunes verts sont inquiets. C'est aussi la même chose pour vous ?
Alors nous, on est très inquiets, bien entendu. On a commencé à voir les premiers signes au début de cette année avec quelques représentants des grandes régions suisses. J'ai organisé déjà quelques réunions au mois de mars passé avec quelques grands distributeurs. Ensuite, sous l'impulsion du LED, du Conseil fédéral, nous avons rencontré aussi la grande distribution il y a peu de temps. Donc vraiment, on est en train de multiplier depuis des mois les actions pour augmenter la promotion. Parce qu'en fait, le premier constat qu'on fait, c'est que globalement, la promotion des vins suisses en Suisse a un niveau inférieur par rapport à ce qui se fait dans les pays voisins. Vous ne pouvez pas aller en France ouvrir une revue sans qu'il y ait une publicité pour des vins français en France. Chez nous, c'est de loin pas le cas. Donc on doit absolument augmenter déjà la connaissance et la présence des vins suisses en Suisse, parce que on a le meilleur atout. Si vous regardez ce qui s'est passé au concours mondial de Bruxelles, qui s'est déroulé à Aigle l'année passée, eh bien 650 vins suisses étaient en compétition parmi 9000 vins du monde. Eh bien, ils ont fait énormément de médailles, proportionnellement plus de médailles que la plupart des nations qui étaient en compétition. Et donc, si je précise cela, c'est bien pour dire qu'on a des vins de qualité et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit faire la promotion nécessaire, adéquate, pour bien rappeler aux gens en Suisse que nous avons des vins de qualité qui méritent d'être dégustés avec plaisir.
Il y a aussi les vins étrangers qui viennent en Suisse. Les Jeunes Verts ont rédigé une motion fédérale. Elle demande l'instauration d'une taxe au kilomètre pour les produits importés. C'est utile, selon vous, d'agir au niveau national ?
Alors, oui, c'est utile d'agir au niveau national, puisque c'est ce que je fais pour soutenir les actions de promotion plus forte avec la grande distribution. J'ai aussi des contacts avec le président des restaurateurs suisses qui vont bien sûr déboucher prochainement sur des réunions de travail, ensuite également avec les hôteliers. Donc bien sûr, il faut agir sur le plan national.
Mais c'est une bonne taxe d'après vous?
Alors, ceci dit, l'idée de mettre une taxe, je comprends bien le fondement même de la taxe. Le problème, c'est la réciprocité. Ça veut dire que nous, si on commence à mettre une taxe sur les kilomètres parcourus de la bouteille de vin qui va être importée en Suisse, ok, mais la contrepartie, c'est quoi? C'est une taxe sur l'export que les pays voisins vont mettre sur l'exportation du gruyère. Vous voyez, on est dans un système où il faut éviter absolument de se tirer une balle dans le pied, parce que protéger la viticulture, c'est bien. Je pense que c'est mieux de la mettre en valeur que de la protéger. Mais enfin, ceci dit, on pourra avoir une action de protection. Mais si en contrepartie, c'est pour que les laitiers aient encore plus de problèmes qu'ils n'en ont déjà aujourd'hui, je crois qu'au niveau helvétique, c'est vraiment, ce serait une catastrophe. Donc, on doit être très prudent par rapport à ça. C'est pourquoi nous aujourd'hui, et on a encore une séance il y a quelques jours, donc je pense que c'est quand même assez sereinement que les représentants des différentes régions ont dit, mais la promotion, il faut aller de l'avant, il y a des actions extrêmement fortes qui vont être bientôt communiquées, qui sont entreprises, qui vont avoir lieu encore cette année. Et puis bien entendu, ça ne va pas vider les caves, il n'y a pas de baguette magique, ça ne va pas vider les caves qui sont pleines comme ça d'un coup d'un seul. On travaille sur du long terme, mais toujours est-il que l'idée, bien entendu, de reprendre des parts de marché, c'est 37% qu'on a aujourd'hui, eh bien c'est un peu de les augmenter sur à 37, 38, 39, 40%, etc., pour détendre le marché, et puis que les viticulteurs retrouvent aussi un tout petit peu envie de replanter de la vigne, et non pas, comme c'est le cas ces dernières années, de perdre chaque année quelques hectares de vigne.
Affaire donc à suivre. Merci pour cet éclairage, Frédéric Borloo. On rappelle que vous êtes le président de la Fédération Suisse des Vignerons. Bonne soirée.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Le Club, en podcast sur radiochablais.ch.
La journée du 30 octobre aujourd'hui est dédiée aux proches aidants dans plusieurs cantons. Celui de Vaud ne fait pas exception et plusieurs animations sont organisées sur le territoire. C'est notamment le cas ce soir à Clarens, à la résidence Les Hirondelles. Une soirée qui se fera en présence de la conseillère d'État en charge de la santé et de l'action sociale, Rebecca Ruiz. Et elle est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, comment est-ce que vous définissez le concept de proche aidant ?
Alors, j'ai envie de vous dire que les proches aidants, ce sont des personnes comme vous et moi, des personnes qui aident un proche une ou plusieurs fois par semaine. Ça peut être le conjoint, un parent, un frère, une sœur, ou des fois aussi un voisin ou bien un ami qui est malade, en situation de handicap ou en fin de vie. Dans le canton de Vaud, ces personnes représentent 14% de la population. On a 86 000 personnes qui sont des proches aidants et qui s'engagent ainsi de manière extrêmement forte.
La plupart des proches aidants ignorent leur statut, des fois de manière volontaire, d'autres fois pas. Quel mécanisme mettez-vous en place pour leur faire prendre conscience de leur situation ?
Oui, c'est vrai que le plus souvent, ce sont les personnes de l'entourage qui identifient un proche aidant et moi lui-même, car ils s'identifient avant tout en rapport avec l'aider en tant que fille d'eux, femme d'eux, papa d'eux. Raison pour laquelle un grand effort de communication est fait par l'État pour informer les proches et sensibiliser la population. C'est d'ailleurs comme ça que la journée des proches aidants est née en 2012. L'objectif était, il est d'ailleurs toujours celui-là, celui de rendre plus visible la situation des proches aidants et les solutions qui existent pour soulager et les accompagner.
Et quelles prestations sont mises à disposition ?
Alors mon département et ses différents partenaires, on compte plus de 40 partenaires dans tout le canton, mettent à disposition des soutiens sous différentes formes. On a des aides financières qui sont ciblées en fonction des ressources des personnes. Ça peut être des repas, des aides au ménage, des conseils aussi qu'on donne, des informations, de l'accompagnement à domicile, de l'accueil temporaire, par exemple de la relève. Quand vous avez des proches aidants qui sont à bout de souffle, qui ont besoin de respirer, eh bien une relève qui peut prendre en charge les personnes pendant une nuit ou pendant quelques heures en fonction des besoins du proche aidant. On met aussi en place des formations spécifiques et puis des rencontres pour les proches, des groupes d'échanges et de paroles. Voilà. Et toutes ces prestations, on peut les retrouver par exemple sur notre site de l'État, sous la rubrique proche aidant pour celles et ceux qui voudraient avoir des renseignements.
Vous l'avez dit, le canton de Vaud compte environ 86 000 proches aidants. Si ces personnes n'intervenaient pas, qu'est-ce que ça coûterait à l'État ?
Alors ça, c'est évidemment une grande question, parce que c'est vrai que le travail qui est fourni par les proches aidants au niveau national, on sait que ça représente des milliards. Donc c'est vrai que c'est un travail qui est fourni à la communauté et qui rend évidemment un immense service, non seulement aux personnes qui sont prises en charge, mais évidemment que d'une manière ou d'une autre, elle se substitue à l'État. Donc moi, je ne peux pas vous donner un chiffre, mais on sait que c'est un engagement non seulement humain, mais aussi un engagement qui, s'il se traduisait de manière financière, serait évidemment extrêmement important.
Est-ce que des mesures dans ce sens sont imaginées dans un futur proche ?
Dans quel sens ?
C'est-à-dire, est-ce que des prestations vont être vraiment payées une fois que les proches aidants ont fait X nombre d'heures, que ces heures-là seront encore mieux valorisées ?
Bon, vous savez, il y a tout un débat qui se mène actuellement au niveau fédéral. Il y a un projet du Conseil fédéral qui n'inclut pas ce type de prestations. On parle plutôt de congés prolongés pour des personnes qui doivent s'occuper, par exemple, d'un enfant qui est très malade. Donc, donner la possibilité aux gens de pouvoir s'absenter du travail. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des proches aidants ont un emploi. Et certaines se retrouvent dans des situations où c'est leur emploi qui est menacé en raison de cette activité. Au niveau du canton de Vaud, il y a aussi différentes propositions parlementaires qui ont été faites, avec par exemple des questions de déduction fiscale qui sont envisagées. Nous, ce qu'on envisage, donc ces traitements parlementaires devront être faits devant le Grand Conseil, qui dira aussi quelles orientations il souhaite prendre. Nous, du côté du département, ce qu'on envisage pour l'instant, c'est de continuer à développer des formations, en particulier auprès des ressources humaines dans les entreprises, et puis aussi, par exemple, de pouvoir donner des aides de relève pour les parents qui ont des enfants qui sont atteints du cancer, par exemple. On travaille sur ce type de piste plutôt actuellement.
Et finalement, d'ici quelques minutes, vous allez inaugurer l'exposition Proche aidant tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition ?
Alors, c'est vrai que cette exposition, elle est présentée à la résidence Les Hirondelles à Clarens. Elle présente qui est un proche aidant, quelles sont ses motivations pour aider, les risques auxquels ces personnes sont confrontées, à quoi elle doit faire attention, comment elle doit s'entourer pour ne pas s'épuiser. Et puis, dans le cadre de l'exposition, il y aura également des ateliers gratuits qui seront proposés aux professionnels et aux proches aidants. Et j'invite évidemment toute la population intéressée à s'y rendre et à aller voir ce travail formidable qui est fait par ces personnes.
On va donc vous laisser aller à cette soirée. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous, Rebecca Ruiz. Bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Radio Chablais. Le club.
D'après les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique, notre pays compte 243 000 chômeurs. Un tiers d'entre eux recherchent un travail depuis plus d'un an, au moins. Caritas Vaud veut changer la donne et organise une conférence débat demain. On en parle avec le directeur de l'organisation, Pierre-Alain Prat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on comprend le sens de chômage longue durée, mais quels sont vos critères très précisément ?
Alors, dans le cadre du travail que nous avons fait, nous intéressons aux personnes qui sont au chômage, qui sont des chômeurs pour nous de très longue durée. Ça veut dire, ça fait plus de 18 mois qu'ils ne sont plus en emploi et qu'ils n'ont plus retravaillé.
D'après l'EFS, 4,9% de la population active est au chômage, un chiffre qui est coupé en deux lorsqu'il est donné par le secrétariat d'État à l'économie. Vous êtes sur le terrain, qui a raison ?
Alors, je crois que l'Office fédéral de la statistique, prend la même définition que tous les pays européens, qui est une définition de l'Office international du travail, hein, et qui considère qu'un chômeur, c'est une personne en âge de travailler, mais qui est sans emploi, qui est disponible pour un emploi et qui est en recherche, qui recherche un emploi. Donc, si on veut comparer notre taux de chômage, et c'est une des conclusions de Caritas aussi, aux autres pays européens, il faut vraiment se référer à la statistique de l'Office fédéral. Par contre, quand on parle du taux du SECO, donc du secrétariat à l'économie, là, on est plus sur, je dirais, un calcul administratif du chômage. C'est notre système propre de l'assurance chômage. On calcule là les chômeurs inscrits aux ORP. On en déduit de ce calcul ceux qui sont en programme d'occupation, ceux qui sont en gain intermédiaire. Et c'est vrai qu'on arrive à un chiffre d'environ 97 200 chômeurs pour cette même période. Donc c'est presque le simple au double. Mais si on veut se comparer aux autres pays, prenons le taux de l'Office fédéral de la statistique. Et ici, on se rend compte quelque part que la Suisse n'est pas véritablement ce pays du plein emploi qui veut bien le dire. Il y a même des pays européens qui font mieux que nous, comme l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre par exemple.
Quelle tranche de la population est plus généralement représentée dans cette tranche des chômeurs longue durée ?
Alors je dirais qu'on a identifié quatre raisons qui font que des personnes restent au chômage de très longue durée. Bien évidemment l'âge, hein, c'est une question qui est maintenant connue. Alors c'est pas qu'on perd plus facilement un travail si on est âgé, par contre c'est très clair qu'on en retrouve beaucoup plus difficilement si on est un chômeur âgé. L'origine, le niveau de scolarité aussi, les qualifications, et puis aussi des personnes qui ont un parcours avec et qui connaissent certaines vulnérabilités, et on l'a remarqué, plus vous êtes au chômage dans la très longue durée, plus cet état de fait représente pour vous une grande vulnérabilité.
Le Conseil fédéral veut venir en aide aux chômeurs en fin de droit. Ils pourraient bénéficier d'une sorte de rente-pont à partir de 60 ans. Une mesure qui va dans le bon sens, d'après vous ?
Oui, donc je pense que c'est une mesure qui va effectivement dans le bon sens. Hein. On a aussi une rente-pont, un système de ce type-là dans le canton de Vaud. Mais je crois surtout que ce que nous proposons, c'est que proposons-nous aujourd'hui, enfin, aux personnes qui sont au chômage de très longue durée, qui sont aujourd'hui aidées par l'aide sociale, mais qui, de fait, ne sont pas des cas sociaux, si vous voulez. Ils sont à l'aide sociale parce que c'est le régime qui a pris le relais de l'assurance chômage pour leur garantir un minimum vital. Mais ce sont des personnes qui cherchent toujours un travail, qui veulent travailler, et pour lesquelles nous n'avons pas aujourd'hui de réponse adéquate. Et je pense que, avant, je dirais, d'attendre la rente-pont à 60 ans, eh bien, il y a, de notre point de vue, encore des choses à faire avec ces personnes.
On parle chiffres, mesures, mais quel impact a le chômage longue durée sur les personnes concernées ?
Ah, c'est un impact qui est vraiment très fort, et nous avons aussi décidé dans la démarche de les rencontrer, et on rencontre dans les cantons romands maintenant différents chômeurs, et c'est l'impact, c'est évidemment l'exclusion, c'est le regard, c'est les couples qui se défoncent, c'est les regards des enfants sur un père ou une mère qui est chômeur ou chômeuse de longue durée, c'est des impacts évidemment sur la santé, et je crois que ça vaut vraiment la peine de s'efforcer encore de trouver d'autres solutions que celles que nous avons aujourd'hui, hein. C'est pas que nous n'en avons pas, mais c'est peut-être des solutions qui ne marchent pas, ou qui ne marchent plus pour ces personnes, et je crois que ça vaut vraiment la peine d'investir encore à chercher des alternatives.
Lors de la conférence débat, vous allez revenir sur différentes expériences pratiquées en Suisse et à l'étranger, mais aussi proposer un modèle qui pour vous pourrait fonctionner dans le canton de Vaud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, ces expériences, elles ne sont pas véritablement, exercées en Suisse. Au contraire, on a été les voir dans d'autres pays, en particulier la France. Et le modèle, c'est de renverser un petit peu aujourd'hui tous les efforts que nous faisons visent à ce que le chômeur ou la personne qui recherche un emploi s'adapte à l'offre d'emploi. Et on a vu qu'on pouvait peut-être trouver des solutions plus pragmatiques pour les chômeurs de très longue durée en adaptant plutôt l'emploi à ce qu'ils peuvent faire et sont en mesure de faire. C'est un peu, si vous voulez, déjà le modèle qu'on pratique pour les gens qui sont au bénéfice de l'assurance invalidité, mais on ne le fait pas pour des personnes qui n'ont pas une atteinte à la santé. Alors on a vu deux expériences, et en particulier celle de Territoire Zéro Chômeur, où des territoires expérimentent un modèle où toute personne volontaire, qui est aujourd'hui... ce qu'elle peut faire, ce qu'elle veut faire, et à ce moment-là, on va créer avec cette personne, pour cette personne, un emploi de durée indéterminée, et qui sont des emplois dans des entreprises ad hoc, des entreprises à but d'emploi, si vous voulez, et à ce moment-là, la personne se remet à travailler, est au niveau dans le travail, reçoit un salaire pour offrir des prestations qui sont le plus souvent au bénéfice de la collectivité.
Des propositions qui seront donc discutées demain après-midi à Lausanne. Merci de nous en avoir fait part ce soir. Au revoir.
Merci, au revoir.
Le Salon Suisse des Goûts et Terroirs du 30 octobre au 3 novembre à Bulle et le Gruyère AOP vous souhaitent une bonne soirée. Deal Days chez Livic et Lumimart. En ce moment et seulement jusqu'à lundi, bénéficiez de moins 20% sur tous les meubles, luminaires et articles de la boutique. 20% sur tout chez Livic et Lumimart.
Ce vendredi, c'est la Toussaint et certains d'entre vous auront congé. Et d'autres pas. Pour les chanceux, le centre Manor Vevey est ouvert vendredi 1er novembre de 9h à 20h. Faites vos achats en toute tranquillité vendredi 1er novembre. Centre Manor Vevey, au centre de vos envies.
Après Intouchable et le sens de la fête, découvrez Hors Normes.
Le diagnostic, c'est quoi ?
C'est un autisme particulièrement sévère.
Je vais trouver une solution.
Vincent Cassel, Reda Kateb, le choc du Festival de Cannes.
Il y a ceux qui vous regardent le plus, ceux qui vous écoutent plus, puis il y a les autres.
Hors Normes, actuellement au cinéma.
Autos Outlet Sport, tout pour les sports d'hiver. Ski, chaussures, habits de ski. Un choix immense, des marques prestigieuses, des conseils de pros, des prix imbattables. Autos Outlet Sport, zone industrielle de l'Épine à Colombey.
Radio Chablais,
le club.
Concerne la moitié de la population, mais ne sont que peu évoqués. Il s'agit des menstruations. Une journée leur est dédiée, aura lieu ce samedi au Mont Pèlerin. Zoé Genet Berthou est l'initiatrice du projet Mes Premières Lunes. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Comment est né ce projet ?
Ce projet est né suite à la traduction que j'ai fait d'un livre qui s'appelle Rejoindre la Lune. C'est un livre de Lucie Pierce qui est juste magnifique, très poétique et pratique. Et je me suis dit, mais mince, il faut que ça existe en français. Et puis voilà, des gens l'ont lu et m'ont dit, mais quand est-ce que tu organises quelque chose ? Et voilà.
Vous avez mis sur, résumé, mais... vous avez mis sur pied cette journée qui aura lieu samedi. Ça a été facile de trouver des intéressés ou le sujet est encore très tabou ?
Le sujet est encore très tabou, mais on a eu beaucoup de chance et d'ouverture avec le secteur animation jeunesse de Corvier, Corzeau et environ. Et on se réjouit vraiment beaucoup de faire cette journée.
La journée justement est dédiée aux jeunes filles qui s'apprêtent à avoir leurs règles ou qui viennent de les avoir. Il aurait demandé de venir accompagner d'une adulte. Pourquoi ?
Parce que il y a rien de mieux que l'expérience à partager pour pouvoir se faire une idée et puis être inspiré dans ce qu'on a envie de vivre ou pas envie de vivre, et puis avoir un peu une perspective sur la façon dont nous, moi j'ai plus de 40 ans, ça nous a été présenté ou pas présenté. Et voilà, il y aura des temps d'échange et c'est vraiment très riche, ces échanges transgénérationnels.
La journée a plusieurs objectifs, dont celui de parler de la douleur, qui est une réalité pour beaucoup. Vous souhaitez les aider à surmonter ces douleurs ?
Oui, et puis à les accueillir, à les écouter, à en prendre note, et puis à trouver des moyens, à créer des moyens pour se soulager. Déjà au niveau simplement naturel ou physique, d'apprendre à bouger son corps, de boire des tisanes qui peuvent aussi éviter des crampes trop fortes quand l'utérus se contracte. Il y a beaucoup de choses avant les médicaments à essayer.
Et à quel moment est-ce qu'il faut consulter ?
Moi, je dirais que à partir du moment où on peut pas se lever de son lit et puis que ça nous empêche de faire des choses, c'est vraiment important d'aller poser des questions et puis de venir avec des notes qu'on aurait prises sur ce qui nous arrive. Là, je parle des douleurs physiques, mais il y a aussi des douleurs émotionnelles. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent avoir un syndrome prémenstruel très fort au niveau émotionnel, avec des envies de divorcer chaque mois. Là aussi, ça peut être important de consulter, parce qu'on peut très bien trouver des solutions pour adoucir ça.
On parle des douleurs. Est-ce que du coup, vous êtes en faveur d'un congé donné aux femmes lorsqu'elles ont leur menstruation ?
Alors, mais volontiers. Volontiers, je pense que c'est vraiment un temps d'introspection, les menstruations. Et puis, on peut tout à fait imaginer une société où les cycles seraient vraiment respectés dans leur dimension presque de spiritualité féminine, ce qui se fait ou ce qui se faisait dans certaines cultures indigènes.
Pendant la journée, vous allez encore présenter les différents matériaux d'hygiène intime. Vous allez aussi parler du choc toxique qui est favorisé par une mauvaise utilisation des tampons ou des coupes menstruelles. Quels sont les symptômes ?
Alors, les symptômes, ça peut être déjà une simple douleur. Moi, ce que je dirais déjà, c'est d'être vraiment attentif aux signaux de son corps. Si on sent qu'on doit sortir ce tampon, il faut tout de suite le sortir. Si on a un peu un vertige, une sensation d'évanouissement, des nausées, il faut tout de suite enlever ça. Et évidemment, sur les boîtes de tampons, c'est marqué souvent qu'on peut les garder 8 heures, mais c'est pas vrai. Vraiment, plus on peut le changer. En fait, il faudrait que cette partie de notre corps puisse aussi respirer. Et le tampon permet pas ça. Et la cup, quand on nous dit 12 heures, moi je trouve que c'est vraiment exagéré.
Zoé Genet-Bertou, vous êtes l'initiatrice de Première Lune. La journée se déroulera samedi au Mont Pèlerin. Il reste encore des places. Merci, bonne suite de journée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le club en podcast sur radiochablais.ch.
Mais qui veut tuer le grand vizir ? C'est le titre du prochain spectacle du théâtre du Croution. Il était présenté ce matin à Montaigne. Son metteur en scène, Olivier Dupéré, est en studio avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est l'histoire de ce prochain spectacle ?
Alors, c'est une histoire dans l'histoire, un théâtre dans le théâtre, puisque en fait, il s'agit d'un tournage, un tournage de cinéma. Et dans ce tournage de cinéma, il y a un acteur qui est absolument insupportable. Il est vraiment très, très méchant, un sale type, quoi. Et l'équipe de tournage s'est mis en tête de l'éliminer. Mais malheureusement, ça ne se passera pas de cette manière-là.
Vous signez donc à nouveau une comédie. Pourquoi ?
Je crois que les gens en été, en tout cas au bord du lac et chez nous au Théâtre du Croution, ils sont très très heureux de venir voir et de pouvoir se marrer. C'est l'humour, un petit peu notre registre depuis une année ou deux. Là.
Et là, c'est une pièce aux allures de contes et mille et une nuits que vous avez choisie. Pourquoi ?
C'est une création. Hein. Ça veut dire que le prétexte, c'est ce grand vizir, c'est le tournage de ce film oriental. Et puis en réalité, c'est un spectacle qui va avoir plein d'effets spéciaux, plein de rebondissements, puisqu'il y a une équipe de tournage qui sera en place. Et puis évidemment, un décor également de 800 mètres carrés, assez imposant cette année à nouveau.
Effectivement, comme d'habitude, vous aurez des décors époustouflants.
À la différence près que celui-ci il sera truffé de gadgets, enfin de choses qui vont bouger, qui va se passer pas mal de choses.
Vous pouvez nous donner quelques indices?
Je peux dire par exemple qu'il va y avoir du feu, de l'eau, des accidents, des projecteurs qui tombent. C'est une véritable catastrophe ce tournage.
Vous proposez l'écriture du spectacle à un collectif et non pas à Alexis Giroud comme vous en aviez l'habitude. Pourquoi ce choix ?
Alexis Giroud a écrit plusieurs spectacles pour nous, mais ce n'est pas le seul qui a écrit évidemment. L'idée c'était de travailler avec de jeunes auteurs, des gens qui n'avaient peut-être pas forcément travaillé dans le monde du théâtre, mais dans le monde du cinéma, puisqu'on parle d'un tournage. Et ça permettait aussi d'avoir plusieurs visions de ce spectacle, peut-être aussi de se rajeunir un tout petit peu. Avec les Dalton, on a eu plus de jeunes qui sont venus au spectacle parce que le sujet s'y prêtait, et des familles également qui venaient avec leurs enfants. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche également dans ce titre, Qui veut tuer le grand vizir, puisque c'est vraiment purement une comédie.
Est-ce qu'on verra quand même des classiques comme Don Camillo ou vous partez que sur des créations originales ?
Non, Don Camillo, c'était un classique si on veut, mais on était les premiers à l'avoir adapté au théâtre, par exemple. Donc c'est pour moi, dans un sens, une création également. Je crois que pour l'instant, on surfe sur la vague de l'humour. Il n'est pas du tout impossible qu'on remonte à un spectacle comme Grande Dixence ou comme, par exemple, Croix-Rouge une certaine année. Il y a un temps pour tout, quoi. Là, c'est le temps de l'humour.
Alors, il y a aussi un temps pour faire vos spectacles. Ils se déroulent toujours au Bouvray. Chaque année, le public se demande est-ce que le spectacle prochain va se faire au Bouvray ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Ah ben, je me pose la même question que le public. C'est ça que je peux répondre. Je crois que pour l'année prochaine, on sera sur le même emplacement. La commune du Bouvray, son président, cherche des solutions pour nous. J'espère qu'on les trouvera. Il n'y a pas de raison. On a un très bon rapport avec la commune du Bouvray. Nous, on espère rester là-bas. Et puis, nous sommes des saltimbanques, donc on peut bouger de toute manière.
Olivier Dupéret, merci d'avoir été avec nous. On rappelle qu'il faudra patienter pour voir le fruit du travail de la troupe, puisque le spectacle est à voir l'été prochain. Merci.
Et puis peut-être juste rappeler que c'est Fabrice Bruchet qui incarne le rôle principal et qu'on peut réserver sur www.croutchon.ch. 15% de remise jusqu'au 31 décembre de cette année.
Merci. Et merci. Et c'est ainsi que se termine le club. Grâce au soutien de Valérie Blum, Quentin Frey, Valentine Zenker et à la technique, évidemment, Cyril Zoller.
Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.